Habituellement, j'ai aussi un PowerPoint avec des photos, mais aujourd'hui, il n'y a pas les photos, donc je demanderai de faire travailler votre imagination à la place des photos. Voilà.
Alors Malebranche était un disciple de Descartes. En fait, il affirmait, lorsqu'il battait un animal, que les cris qu'il poussait n'avaient rien à voir avec la douleur, que c'était juste un dysfonctionnement dans ses rouages. Il y a 3 siècles à peine prévalait la théorie de l'animal-machine. Et contrairement à ce que pensait M. Descartes, eh bien les animaux sont des êtres vivants sensibles, sentients même. Alors c'est quoi un animal sentient? Eh bien, les anglo-saxons utilisent cet adjectif pour désigner le fait que les animaux terrestres et aquatiques, comme nous, ont des perceptions, des désirs, une volonté, des buts même qui leur sont propres, qu'ils éprouvent des émotions, des sensations agréables, désagréables, qu'ils ressentent la terreur, la souffrance, qu'ils tentent d'éviter désespérément, parce que tout comme nous, eh bien, ils tiennent à leur vie. Alors, j'ai été avocate pendant plus de 30 ans, et pendant plus de 30 ans, eh bien, j'ai défendu les humains, les animaux humains, comme certains les appellent. Eh bien, j'ai décidé en fait maintenant de mettre mes compétences juridiques au service de ceux qui n'ont pas la parole, au service des animaux non humains. Alors, le droit de l'animal, c'est quoi? Eh bien, en fait, déjà, il faut bien faire la différence entre la notion « les droits des animaux » et le droit de l'animal. Parce que les droits des animaux, c'est une notion philosophique, on se pose la question, est-ce que les animaux ont des droits? Et s'ils n'en ont pas, quels droits on pourrait leur accorder? Par exemple, les droits fondamentaux, il est évident qu'un lapin ou une vache peut avoir le droit fondamental de ne pas être torturé, de ne pas être détenu de manière arbitraire, pourquoi pas. Mais par contre, le droit de vote, les animaux, ils n'en ont rien à faire. Donc ça, la notion des droits des animaux, c'est une notion différente du droit de l'animal. Le droit de l'animal, c'est quoi? Eh bien, il faut savoir qu'aux États-Unis, en Espagne, c'est une matière du droit qui est autonome. C'est-à-dire qu'on enseigne le droit de l'animal à l'université et on décerne même un diplôme en droit de l'animal. En France, on commence à enseigner le droit de l'animal, mais ce n'est pas une matière autonome. C'est-à-dire qu'il y a des DIE en plus, dans le cas, par exemple, d'une université quand on enseigne l'environnement, eh bien, on peut avoir des modules de droit de l'animal. Et le droit de l'animal, en fait, eh bien, c'est l'ensemble des règles juridiques qui sont applicables aux animaux. Alors, il y a des règles juridiques qui sont favorables aux animaux, mais il faut savoir qu'encore aujourd'hui, la majorité des règles juridiques qui sont applicables aux animaux leur sont défavorables. Je vais vous donner 3 exemples. Quand il y a eu la grippe aviaire, on a tué des millions de poules, des millions de volailles, sous prétexte qu'il y avait le principe de précaution, et pour protéger les humains. Donc, je veux dire, effectivement, quand il y a une épidémie de grippe dans une maison de retraite, on n'euthanasie pas les pensionnaires de la maison de retraite par principe de précaution. Mais là, on a euthanasié, on a tué des milliers de poules qui n'étaient même pas malades. Donc ça, c'est un exemple de loi, de droit de l'animal qui est contre. Un deuxième, les loups. Quand on prend un arrêté pour tuer des loups, c'est pas une loi favorable aux loups. On est bien d'accord, c'est un autre exemple. Troisième exemple qui est très récent, on a tué au mois de cet été, enfin au printemps, 163 macaques en France parce qu'on suspectait qu'ils étaient porteurs d'un virus, que de toute façon tous les macaques ont toujours ce virus et que ça n'a jamais été transmissible à l'homme. Et pour preuve d'ailleurs, récemment la fondation Brigitte Bardot, elle a réussi à en sauver les deux derniers, qui eux n'ont pas été euthanasiés. Mais là, des exemples comme ça, je pourrais vous en citer beaucoup, puisque comme je vous le disais il y a 2 secondes, l'ensemble des règles qui sont applicables aux animaux ne leur sont pas favorables. Et justement, je vais vous faire un petit peu d'évolution du droit de l'animal, plutôt j'ai envie de dire un peu de l'histoire de la protection animale, parce qu'en 1804, à l'époque du code civil, notre code civil napoléonien, il n'y avait d'ailleurs aucune règle de protection animale. Ça n'existait pas en 1804. Et en matière de protection animale, il y a eu 5 étapes importantes. 5. La première, c'est 1850. 1850, c'est la loi Gramont. Alors Gramont, c'était un député qui ne supportait pas de voir, parce qu'en 1850, effectivement, il y avait encore beaucoup de chevaux dans la rue, beaucoup de chevaux qui tiraient des carrioles, et Gramont ne supportait pas de voir que l'on maltraite des animaux dans la rue, notamment les chevaux. Et cette loi, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, moi, je dirais qu'en fait, je résume cette loi par cette expression « cacher cette souffrance que je ne saurais voir ». Parce qu'en fait, cette loi, elle a créé une contravention pour les actes de maltraitance commis sur les animaux, mais en public. C'est-à-dire, en fait, ce que l'on protégeait, c'était la sensibilité humaine mise à rude épreuve devant la souffrance animale. Il faudra attendre un siècle, 1950, pour qu'en fait, cette loi soit abrogée et qu'on considère enfin que les animaux avaient un intérêt propre à ne pas souffrir. Et qu'en fait, on étende cette loi qui punissait donc d'une simple contravention à tous les actes de maltraitance commis sur les animaux, même dans la sphère privée. Hein ? Donc, c'était quand même important que l'on considère enfin que les animaux avaient un intérêt à ne pas souffrir. La troisième étape, alors là, je pourrais, il y a des étapes intermédiaires, mais la troisième étape très importante, c'est 1963. Parce que jusqu'alors, c'était des contraventions, c'est-à-dire peine d'amende. En 1963, on va créer pour la première fois un délit. Le délit, c'est l'article 521 aujourd'hui qui a été depuis, on a aggravé les sanctions, mais c'est 1963 où pour la première fois, il existe un délit. Alors ce délit, c'était pour les actes de cruauté, pas pour les simples actes de maltraitance. La maltraitance, c'est une contravention et l'acte de cruauté, c'est un délit. Alors pour vous donner à peu près une ordre d'idée, par exemple pour les humains, un excès de vitesse ou même un stationnement hors de un mauvais stationnement, c'est une simple contravention. Un vol, c'est un délit. Tuer un être humain, c'est un crime. Pour les actes commis à l'encontre des animaux, il n'y a pas de crime, il y a juste des contraventions. Il faut savoir que tuer un animal, si on ne commet pas d'acte de torture contre lui avant, par exemple si votre voisin décide tue votre chat avec un fusil et que le chat est mort sur le coup, bien c'est une simple contravention. C'est pas un délit de tuer un animal. Ce qui est un délit, c'est l'acte de cruauté. Donc ça, c'est 1963. C'était donc vraiment important que l'on correctionnalise les délits commis à l'encontre des animaux. La quatrième étape, c'est 1976. Parce que pour la première fois, eh bien, notre loi, le code rural, va reconnaître la sensibilité des animaux. Et en fait, cette sensibilité des animaux, elle sera dans le code rural sous l'article L214. Vous voyez, donc ça explique le nom de l'association L214, en fait, qui a choisi, parce que donc voilà, l'article, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, tout animal étant un être vivant sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Donc, cette reconnaissance de la sensibilité de l'animal était intégrée uniquement au code rural. Et le code rural a une portée beaucoup moins importante que le code civil. Et en fait, il faudra attendre 2015, donc c'est la cinquième et dernière étape. En 2015, eh bien en fait, le code civil reconnaît enfin à son tour que les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Et donc on va ajouter un article au code civil, l'article 515.4, bon là il n'y a pas eu d'association qui a pris le nom de cet article, donc il n'est pas connu. Et en fait, on peut, quand on fait la rétrospective, on se dit, oh là là, il y a eu une évolution incroyable, ces cinq étapes, mon Dieu, c'est génial pour les animaux, on a dû enrayer la plupart, toute la souffrance animale. Mais en fait, concrètement, cette reconnaissance de la sensibilité des animaux, elle n'a pas changé tant que ça les choses. Pourquoi ? Eh bien parce que, en fait, il faut savoir que les règles de protection dont bénéficient les animaux sont anthropocentrées. C'est-à-dire que le code civil, il considère toujours l'animal comme une chose appartenant à l'être humain, l'animal domestique. Donc, ça reste, l'homme reste toujours, bien évidemment, propriétaire de l'animal. Alors, depuis sa création, surtout en 1804, il faut savoir que notre code civil n'a toujours que deux catégories. Il n'y en a pas trois. Il y a les choses et les personnes. Les personnes, elles, c'est-à-dire vous, moi, nous sommes des sujets de droit. C'est-à-dire que nous avons des droits. Un bébé qui vient de naître est un sujet de droit. Il a la personnalité et il a des droits. Toutes les personnes humaines sont des sujets de droit, donc on a des droits fondamentaux, comme je vous disais, le droit de ne pas être torturé, le droit de ne pas être emprisonné, le droit de ne pas être tué.
Dans la majorité des pays, et bien en fait, et même encore en France, et bien les animaux font toujours partie de la catégorie des choses, puisqu'il n'y a que deux catégories, les personnes et les choses. Donc même si effectivement on leur a reconnu la qualité d'être vivant, doué de sensibilité, et bien ils font toujours partie de la catégorie des choses.
Alors il y a quand même dans le monde, dans certains pays, où on a en fait proposé plusieurs
solutions.
Donc la plus favorable, ça serait, donc on garderait les choses et les personnes, mais dans la catégorie des personnes, on créerait deux catégories. On aurait les personnes humaines et les personnes non humaines. Vous savez que les personnes morales ont la personnalité. En Inde, on a donné la personnalité à des rivières, à des montagnes. Pourquoi ne pas la donner aux animaux ? J'allais dire que, par exemple, l'abattoir en tant que société a plus de droits que les cochons qui sont tués. Parce qu'ils ont la personnalité morale, les animaux n'ont pas la personnalité juridique, ce sont des choses. Donc, il y aurait cette possibilité, mais en fait, effectivement, comme c'est la plus ambitieuse, c'est la plus minoritaire. Donc, la deuxième alternative, qui existe déjà dans certains pays, comme en Allemagne, comme en Suisse, on a créé en fait une troisième catégorie. Donc, on a ajouté la catégorie des animaux. Donc on a les personnes, les choses et les animaux. Donc la France, en n'ayant même pas créé de troisième catégorie, est très en retard par rapport à beaucoup de pays européens. Parce que d'une manière générale, en fait, les animaux les plus protégés sont les animaux les plus proches de nous. C'est-à-dire que les plus proches de nous sur le plan affectif et sur le plan cognitif. Donc notamment nos animaux domestiques. Et plus les animaux sont éloignés de nous, parce que ce sont des animaux sauvages ou parce qu'ils sont loin de nos yeux, et bien moins ils ont protégé. Voire même ils n'ont aucune protection. Comme par exemple les poissons. Les poissons n'ont aucune protection à titre individuel. Aucune. Quand on parle des poissons, on parle toujours de biodiversité, on parle de tonnes, mais on ne parle jamais de quantité. Et parce qu'en fait, la justice humaine, elle va accorder ou non sa protection aux animaux en fonction de l'utilisation qu'elle fait des animaux. Ce qui la conduit à les placer dans des catégories. Alors vous avez plusieurs catégories. Alors les animaux les plus protégés sont les animaux qu'on appelle les animaux de compagnie. Alors en France, les animaux de compagnie sont inscrits sur une liste. Il y a un décret qui dit quels sont les animaux qui ont le droit d'être des animaux de compagnie. C'est important parce que les animaux de compagnie ne sont pas mangés. Le cheval n'est toujours pas considéré comme un animal de compagnie, donc on peut toujours manger de la viande de cheval. Par contre, en France, les chiens, les chats, on a les naques, le poisson rouge, la carpe coy, le lapin nain sont classés comme des animaux de compagnie et donc on n'a pas le droit de les manger. Et c'est eux qui ont la meilleure protection. Ensuite viennent ce qu'on appelle les animaux domestiques ou de rente, ou qu'on garde en captivité. Ceux-là aussi ont une protection. Ils sont protégés par le code pénal. Et puis en troisième et en dernier, vous avez les animaux sauvages. Les animaux sauvages, en plus, il y a encore des sous-catégories. Alors c'est vrai qu'en droit, le droit, les catégories, les sous-catégories, il adore ça. Donc dans les animaux sauvages, vous avez donc ceux qui sont vraiment en bas de l'échelle, les anciens, ce qu'on appelait les animaux nuisibles. Alors maintenant, on dit que ce sont les animaux susceptibles de causer des dégâts. Des dégâts à qui ? À l'être humain, bien évidemment. Donc ceux-là, on a le droit de les tuer pratiquement tout le temps. Ensuite, vous avez les animaux sauvages que l'on peut tuer. Et puis vous avez ceux qui sont protégés, mais au moins on n'a pas le droit, ce sont les animaux qui sont en voie de disparition ou dont les espèces sont protégées. Mais je vous dis, même les espèces protégées comme le loup ou comme l'ours, on arrive toujours à trouver des réglementations. Enfin voilà, on arrive à avoir toujours des exceptions quand même. Donc en fait, il n'y a aucune espèce qui soit totalement protégée, en tout cas de la main de l'homme. Donc, en fonction de leur catégorie et de leur sous-catégorie, le sort que va réserver les humains aux animaux n'est pas du tout le même. Et un même animal, en fonction de la catégorie où il va se trouver, il peut même changer de catégorie en fonction de sa vie. Je vais vous donner l'exemple du lapin. Si c'est un lapin de compagnie, si c'est un lapin. Donc justement, le lapin, c'est un bon exemple parce qu'il peut changer souvent de catégorie. Alors imaginez, je n'ai pas les photos, imaginez que vous soyez donc un lapin de compagnie, un lapin nain de compagnie. Vous avez gagné le gros lot. Vous avez gagné le gros lot parce que votre propriétaire, parce qu'il faut qu'il y ait un propriétaire, sinon vous n'existez pas, votre propriétaire, il n'a pas le droit de vous faire de mal, il n'a pas le droit de vous tuer, il n'a pas le droit de vous torturer. Donc s'il vous tue sans vous faire de mal au préalable, il risque une simple contravention. En revanche, s'il vous torture avant de vous tuer, ou même s'il ne vous tue pas, mais s'il vous a torturé, là, il risque une peine de prison. Imaginez que vous soyez un lapin de Garenne vivant en liberté. Eh bien, en tant qu'animal sauvage, votre copain, là, le lapin de compagnie, lui, c'est un être vivant doué de sensibilité. Ben, le lapin sauvage, il ne bénéficie pas de la qualité d'animal sensible. Les animaux sauvages sont en dehors. Donc on n'aura pas, on n'a pas reconnu la qualité d'animal vivant sensible aux animaux sauvages. Donc si vous êtes un lapin sauvage, ben, on a le droit de vous tuer. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire. Enfin, ce n'est pas une histoire drôle, parce que c'est une histoire, c'est une jurisprudence, c'est un cas pratique. En fait, c'est un jour, un petit lapin qui est arrivé dans un potager, qui a commencé à manger une salade parce qu'il avait faim. Et le propriétaire de la salade est arrivé, il a pris une pelle et il a donné des coups de pelle. Et le lapin a mis plusieurs minutes pour mourir d'une terrible souffrance. La voisine qui avait assisté à ça avait pris des photos, a contacté une association de défense des animaux. Ils ont porté plainte pour acte de cruauté. Mais il a été relaxé, parce que c'est un animal sauvage et que la protection du code pénal ne lui est pas applicable. Et que bon, dans ce cas-là, une salade a plus d'importance quand même qu'un lapin. Alors, imaginez maintenant que vous soyez un lapin de laboratoire. Un lapin de laboratoire. Alors, comme vous êtes tenu en captivité, vous êtes considéré comme un animal vivant, sensible. Chouette, hein ? Vous allez me dire, chouette, parce que c'est quand même mieux. Et donc, vous bénéficiez du statut d'animal vivant sensible, tout comme un lapin de compagnie. Pourtant, même si vous échappez au shampoing dans les yeux, grâce à une directive de 2013, qui interdit, en principe, que l'on teste les produits cosmétiques sur vous, eh bien, on peut continuer de vous mettre des produits toxiques dans les yeux, des produits chimiques, des produits d'entretien, enfin toutes sortes de produits, des médicaments. Puisqu'on a toujours le droit de tester tous ces produits sur nous. Donc, un laboratoire, il y a mieux. Imaginez maintenant que vous soyez un lapin, toujours ce même lapin, bien évidemment, vous voyez pas de différence entre le premier et le deuxième, un lapin angora. Eh bien, votre belle toison va vous valoir de terribles souffrances, car vous allez naître et être élevé dans une ferme que l'on appelle d'élevage de lapins d'Angora. Et après vous avoir attaché les quatre pattes, bien évidemment vivant, hein, eh bien, on va vous arracher les poils à vif, sans anesthésie, bien évidemment, et on va vous laisser la peau meurtrie, ensanglantée. Et puis, on va vous remettre dans une cage, on va attendre que vos poils repoussent. Et puis on va faire ça 2, 3, 4 fois. Puis à un moment donné, bon, vous ne serez plus apte, votre laine angora ne sera plus assez belle. Et donc vous finirez dans une benne à ordures. Avez-vous déjà entendu un lapin hurler de douleur ? Moi oui. Et je l'entends encore. Parce que vous pouvez regarder sur internet, il y a des vidéos de PETA où on voit et on entend un lapin. Rien d'y penser, oui, j'ai encore la chair de poule, ça. Je ne pouvais même pas imaginer que ça pouvait crier comme ça un lapin. Imaginez que vous soyez un lapin de consommation. Alors là, comme 99% des lapins élevés pour être mangés, vous allez vivre dans des cages sordides, serrés les uns contre les autres, souvent blessés. Vous avez eu aussi, pareil, L214 a fait aussi des... Vous allez sur le site, vous allez voir les photos, les vidéos. Donc les lapins sont dans des cages, les uns contre les autres. Enfin voilà, c'est... vous avez même des certains avec des grilles. Vous voyez les petits qui tombent. Et à l'âge de 6 mois à peine, il faut savoir que les animaux, tous les animaux sont tués, grosso modo, hormis ceux qu'on utilise pour le lait et pour la laine, sont tués à 6 mois. Donc à l'âge de 6 mois, après avoir voyagé parfois dans de longues heures, donc dans des petites cages minuscules,
Mais vous allez finir votre vie suspendu par les pattes, vivant, et puis saigner la plupart du temps en pleine conscience, comme les volailles, parce qu'il faut savoir que comme pour les volailles et pour les lapins, pour tous les petits animaux, il n'y a pas d'endormissement avant. Imaginez pour finir que vous soyez un lapin élevé pour la fourrure. Pour la fourrure. Parce que vous voyez, c'est encore un autre lapin. Il faut savoir que la fourrure, en majorité, c'est pas la fourrure qui vient des lapins qu'on a mangés. La peau des lapins qu'on a mangés, elle est jetée, elle n'est pas utilisée. Pour la fourrure, c'est un élevage bien particulier. Alors, je vais vous faire grâce de la manière dont ils sont élevés et surtout de la manière dont ils sont tués pour que leur fourrure, leur poil soit bien dressé au moment de leur mort. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment on peut expliquer en droit un tel paradoxe ? Comment justifier d'un point de vue juridique et même moral qu'il y ait d'un côté des animaux, ces mêmes animaux, un lapin, dont la vie, la sensibilité sont reconnues, et d'un autre côté ce même lapin, dont on va nier la sensibilité et dont on va nier l'existence ? Comment on peut l'expliquer en droit ? Comment ? Eh bien effectivement, l'esprit de Descartes est toujours bien présent. Parce que dès lors que l'homme exploite un animal, que ce soit pour sa laine, que ce soit pour ses œufs, que ce soit pour son lait, eh bien il est considéré comme une machine. Donc c'est ainsi que les vaches laitières sont des machines à lait. Les poules pondeuses sont des machines à œufs. Et l'animal n'est qu'un produit. Donc un produit alimentaire, un produit vestimentaire, un produit de loisir, les animaux dans les cirques, décoratif même, vestimentaire, un produit, une chose sensible. Et lorsqu'il est plus assez rentable, donc plus assez de lait, plus assez d'œufs, la laine plus assez bonne, eh bien il termine sa vie dans un abattoir, de la même manière que les animaux qui ont été élevés directement pour leur viande. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les vaches laitières, il faut savoir qu'elles terminent leur vie dans un abattoir à l'âge de 5 ans, complètement épuisées. Et dans les vétérinaires qui font les contrôles dans les abattoirs, en fait, on dit toujours que celles les animaux qui arrivent dans l'état le pire, ce sont les vaches laitières. Parce qu'elles sont épuisées, elles ont tellement été utilisées, on leur a tellement pris leur lait, on dit bien une machine à lait, on dit bien je ne suis pas une vache à lait, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc ce sont des vaches qui ont toujours des infections, qui sont très maigres, enfin globalement dans les abattoirs, les vaches, elles arrivent à 5 ans, alors qu'une vache a vie quoi, 20 ans, 15, 20 ans. Ah bon, pour terminer sur une note un petit peu plus optimiste, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Cécilia. En fait, Cécilia, elle était détenue dans une prison. Elle a été enfermée sans jugement. Et elle a passé une grande partie de sa vie dans une minuscule cellule, dans une prison en Argentine, dans des conditions de captivité déplorables. Et une association d'avocats en Argentine donc, a fait valoir devant la justice que les conditions de détention donc, de Cécilia était préjudiciable à sa santé tant physique que mentale et qu'elle avait donc été privée illégalement et arbitrairement du droit à la liberté de mouvement et à une vie décente. J'ai oublié de vous dire, l'association qui a engagé cette action, c'était une association de défense des animaux. Et Cécilia, c'est un chimpanzé. Et le juge a considéré que Cécilia n'était pas un objet de droit, mais un sujet de droit. Là, on est en Argentine. Et que c'était donc une personne, et il a ordonné sa libération. Donc elle a été remise, non pas dans la nature, parce que la pauvre, elle ne pouvait pas, mais elle a été remise dans un parc naturel. Elle a été libérée. Et donc, c'était la première décision, en fait, c'était considérable, parce que c'était la première fois, elle a été libérée le 5 avril de cette année. Hein, c'était la première fois qu'on libérait réellement un animal en lui appliquant ce qu'on appelle l'habeas corpus hein, aux États, en Angleterre, c'est-à-dire qu'en fait les droits fondamentaux qu'on accorde habituellement aux humains, qui sont donc les droits de ne pas être détenus de manière arbitraire et sans jugement. Et depuis donc ce jugement, parce que c'était quand même le premier animal à être considéré comme une personne, eh bien on a eu aussi une jurisprudence avec un ours. Un ours vient pareil là, d'être considéré comme une personne, qu'il avait été détenu de manière arbitraire, que les conditions de détention étaient incompatibles avec, avec sa qualité d'ours, et il a été relâché également dans un parc naturel. Donc c'est vrai qu'à l'étranger, on commence à avoir des décisions comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des décisions courageuses qui reconnaissent la personnalité juridique à des animaux. Et on espère un jour que l'on pourra, alors peut-être dans un premier temps, au moins demander que les grands, ce qu'on appelle les grands singes puissent avoir la personnalité morale, la personnalité tout court, et qu'on ne puisse plus les enfermer, qu'on ne puisse plus les utiliser. Et on espère qu'un jour, les animaux pourront effectivement être considérés comme des personnes. Parce que, en fait... à la manière de Lamartine qui disait on n'a pas deux cœurs, un pour l'animal, un pour l'humain, on a du cœur, on n'en a pas. Moi j'ai envie de dire que logiquement il n'y a pas deux justices, hein. Une pour l'animal, une pour l'homme. Il y a une justice ou il n'y en a pas. Vous voyez, je vous ai fait grâce des images, parce que vous aviez le droit, logiquement, une image pour le petit lapin de compagnie, pour le lapin d'élevage, donc vous avez juste des images de cage. Hein. Voilà, donc finalement, l'imagination parfois est peut-être...
Vous restez mieux sur vos propos.
Voilà. Mais bon, ça ne vous empêche pas d'aller voir les images, des fois c'est important aussi, à tel point que les vidéos de L214 ont quand même fait comme un électrochoc. Parce que parfois, on veut pas imaginer trop, vous voyez, donc là, les images...
Pas. On ne sait pas.
Voilà, on ne veut pas savoir. Hein,
si. Pas.
Alors bon, oui. Non, mais c'est vrai que maintenant, enfin, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais je pense que les images, les mots, c'est important, mais les images aussi, parce que surtout médiatiquement, on n'a pas le temps de faire un discours comme ça, les gens... Donc voilà, donc des images, ça va vite, et au moins, hop, on est pris. Ça, c'est important quand même. Ça, la preuve, c'est que ça marche. Enfin, je veux dire, ça marche. Ça, en tout cas, ça questionne. Ça entraîne un questionnement. Donc, à propos de questionnement, d'ailleurs, est-ce que vous avez des questions
Est-ce que, par exemple, le jugement tout récent au sujet du massacre de ce pauvre chat chevelu,
oui,
où la première fois, enfin, un sadique va faire un peu de prison, est-ce que ça... Ça sert ensuite de jurisprudence ou est-ce...
Alors, il faut savoir qu'on a un article, qui est l'article 521 du Code pénal, qui aujourd'hui punit d'une peine de prison qui peut aller jusqu'à 2 ans de prison et même 4 ans s'il y a de la récidive. Donc, effectivement, ça peut faire... Ce chat chevelu, c'est un exemple, mais il y en a eu des dizaines avant lui, il y en aura sans doute là des dizaines après lui. Il vient d'être condamné, mais à une peine, finalement, de 6 mois ferme. Donc vous connaissez tous l'histoire de Chevelu. C'est un chat, en fait un chat errant, enfin c'est sans doute un chat qui a été abandonné. Donc c'était un chat domestique qui était devenu errant, qui était nourri par plusieurs personnes. Et une des personnes qui le nourrissait, un jour en sort, elle voit le chat sur son scooter. Et bah donc il l'a tué à coup de pied. À coup de ranjo, donné coup de pied, le chat n'est pas mort tout de suite, il l'a massacré. Et ensuite, il a même fait croire que sa femme a fait croire en disant « Oui, on a vu des jeunes qui ont tué le chat, etc. » Donc l'enquête est même partie sur des jeunes et on est revenu sur lui. Il vient de passer en jugement là récemment à Draguignan et il a été condamné à interdiction définitive de tenir un animal. Ça, c'est une bonne chose. Il faut savoir que dans son casier, il avait déjà frappé sa fille, tué un chien, coupé les pattes de son lapin avant de le violer. Enfin bon, vraiment, c'était pas un rigolo. Et il n'a pris que 6 mois de sursis. Alors qu'il était récidiviste, qu'il encourt 6 mois ferme, qu'il encourait 4 ans ferme. Donc il y a des gens qui ont dit que c'était bien. Moi je dis ok, c'est bien parce que c'est du ferme. Et surtout qu'il a eu un mandat de dépôt à l'audience. C'est-à-dire que mandat de dépôt, ça veut dire que vous quittez l'audience comme ça. Hein. Voilà, avec les bracelets. Parce que 6 mois, sinon, vous arrivez, vous ne les faites pas toujours hein, pour oui. les aménager. Donc, et je pense en même temps qu'ils ont fait ça pour sa sécurité. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui... Mais voilà, donc vous avez l'affaire de chevelu. Vous avez l'affaire aussi de cette personne qui vient de prendre, je crois, 12 mois de prison, donc 6 avec sursis, pour avoir donné 7 coups de couteau à son chien parce qu'il aboyait trop. Mais le chien, il n'est pas mort. Il a été récupéré par la SPA et on voit des photos. Et les coups, j'allais dire, c'est une chance. Aucun organe vital n'a été atteint. Donc, moi, je pense que cette femme, si elle avait eu des gamins qui pleuraient trop, je veux dire, elle était bourrée comme un coin quand elle a fait ça, je pense qu'elle aurait été capable de donner... Enfin, moi, c'est... Voilà, après, vous me dites, mais... Mais voilà, mais effectivement, il y a des enfants qui sont tapés parce qu'ils font trop de bruit. Hein. Donc, c'est vrai qu'on dit toujours qu'il n'y a pas deux... Moi, pour moi, il n'y a pas deux violences. Il y a une forme de violence. C'est la même qui s'exerce à l'encontre des êtres humains et des animaux.
Ils se font la main souvent, les criminels.
Souvent, tout à fait. Donc c'est vrai que c'est bien, il faut qu'il y ait... Alors on commence maintenant, parce que c'est vrai qu'il faut que les affaires soient médiatisées. Si elles sont médiatisées, les magistrats ont plus tendance à... Il y a encore 5 ans, voilà, j'avais des... moi j'ai vu des affaires où il y avait donc un type qui a découpé un animal vivant en petits morceaux. Bon, il a pris... il avait pris un 6 mois de sursis, enfin, vraiment, voilà. Et alors en fonction des tribunaux déjà... Donc si vous passez à Draguignan, si vous passez à Paris, en fonction du procureur, en fonction... Bon, c'est pareil avec les humains. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de règles. Vous avez... voilà, maintenant, les parquets aussi. Quand vous allez porter plainte, quand vous allez au commissariat, vous êtes une association, vous voulez dénoncer des faits, mais on ne vous prend pas. On vous prend pas au sérieux. Bon, c'est qu'un chien, c'est qu'un chat. Donc en fait, il faut que ça commence à rentrer dans le... J'allais dire dans l'esprit, il faut que les policiers soient formés à ça, parce que souvent ils ne sont pas formés. Vous venez les voir pour une enquête, ils ne savent pas quoi faire. Il faut que les parquetiers soient formés, il faut que les magistrats...
C'est le même parcours que pour le viol des femmes, comme on a vu récemment. Ce temps que ça a fallu pour...
Ah bah oui, à l'étranger, oui. Ah bah, il faut que ça... Alors, il faut que ça devienne... voilà, il faut que ça devienne, j'allais dire, presque routinier.
Il y a un parcours à faire.
Cette idée, enfin, ce vœu d'une police qui serait justement pour les animaux.
Alors,
est-ce qu'elle a une chance d'aboutir ?
Alors, je ne peux pas vous parler de ce que je voulais vous parler parce qu'il y a les élections sénatoriales demain, donc cause d'élections comme ce dont je voulais vous parler, mais moi je vais vous. Mais sinon, par contre, effectivement, c'est dans des projets d'associations ou partis politiques, bon, je ne vous dirai pas les noms puisque. On vote aujourd'hui pour les sénatoriales, même si je suppose qu'il n'y a pas de grands électeurs ici. Enfin, il y en a peut-être, hein, si, les conseillers, et non, il n'y a pas de... Donc en fait, certaines associations, partis politiques, animalistes, ont proposé que l'on crée une brigade spécialisée. Comme il y a des brigades spécialisées chez les pompiers, on veut qu'il y ait une brigade spécialisée chez les gendarmes ou les policiers, pour ce qui serait spécifique dédié à la maltraitance animale. Par exemple, là, à Rouvres, donc c'est pas loin d'ici, il y a un poney avec des poules, le poney n'a pas d'eau, et donc c'est une jeune dame qui va tous les jours lui mettre de l'eau. Si elle n'avait pas été là, le poney serait déjà mort. Récemment, on a retrouvé des chevaux qui étaient mourants de soif, et on n'a pas pu les sauver. C'est-à-dire que c'est long quand vous dénoncez, vous voulez dénoncer une maltraitance, mais c'est tellement long, c'est-à-dire que vous entendez, qu'on comprend qu'il y en ait, bon les chevaux c'est un peu plus difficile, mais qui ont envie de prendre le chien puis de partir en courant avec, hein, parce que c'est très très long. Donc oui, ça serait vraiment bien, mais en même temps, je pense que c'est vraiment pas la préoccupation actuelle. Et on va vous dire, vous savez, les humains, c'est plus important.
Mais justement, quelle est la vision de la justice hein dans sa globalité, sur le lien qu'on peut faire justement entre le fait que quelqu'un qui va forcément qui va avoir une envie de maltraiter en plus un animal et forcément quelqu'un qui est capable de faire la même chose.
Je pense qu'ils n'ont pas fait le lien encore, c'est vraiment quelque chose.
Qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'un jour les gens se rendent compte que c'est direct
à ça, continuer à en parler, former les magistrats. Il faut qu'ils
doivent le voir pour ça.
Oui, mais déjà il faut que les affaires arrivent jusqu'à eux. Il faut déjà que l'affaire arrive. Moi, j'ai été pendant 7 ans juge de proximité à Dreux. Et on avait peu d'affaires de maltraitance, parce qu'il faut déjà que ça arrive. Il faut déjà porter plainte, il faut que ce soit une association ou le propriétaire, enfin la victime directe. Mais si vous êtes témoin d'une maltraitance ou d'un acte de cruauté, vous ne pouvez pas porter plainte, vous. Il faut être une association pour porter plainte. Ou il faut être le propriétaire du chat ou du chien. Ah non, non. Un particulier ne peut pas porter plainte. Par contre, il peut témoigner. Mais il faut être une association qui a plus de 5 ans d'existence ou être la victime directe. C'est-à-dire que si quelqu'un torture votre chien, vous portez plainte parce que c'est votre chien. Si vous assistez, voilà. Donc c'est aussi compliqué. Il faut ce qu'on appelle avoir un intérêt à agir en justice. Et on considère que si on n'est pas une association ou on n'est pas le propriétaire direct de l'animal, on n'a pas intérêt à agir et la plainte est systématiquement refusée.
Pratiquement, si on est témoin.
On va contacter une association qui, elle, portera plainte pour vous. Mais il faut lui apporter un dossier, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une preuve, il faut qu'il y ait... Voilà.
Et par exemple, si on... Bien sûr,
la parole ne suffit pas.
Non, non. Ça, en même temps, c'est normal. Hein. Oui. Bah non, mais sinon, vous imaginez, ça serait pareil en matière de pour les humains. Hein. J'ai, voilà, bon, il a tué. Enfin, vous voyez, il faut prouver ce qu'on avance. Ça, c'est le propre quand même de notre justice, heureusement. Hein.
Ben là, il y a une évolution quand même, parce que j'ai une association récemment qui a réussi à faire une recherche d'ADN et d'empreintes sur des pièges illégaux de massacre de chats. Et ça, il y a 4-5 ans, moi je me souviens, je l'avais mis dans mon oratoire la première fois que j'étais candidate aux législatives. Et c'était de la science-fiction de demander les recherches d'ADN.
Mais pour des chats.
Et depuis, les mêmes gendarmes qui n'écoutaient pas mes plaintes il y a 5 ans me demandent pourquoi d'être experte, d'aller voir sur place si c'est un vrai cas de maltraitance ou de la malveillance des voisins qui se plaignent sur des. Et puis, ils ont fait des stages où on les a invités dans leur stage en gendarmerie à se rapprocher des associations qui signent des massacres de petits animaux parce qu'ils peuvent, par ce biais, trouver des serial killers trouver des enfants.
Oui, oui, non, mais le problème, c'est que si on raisonne comme ça, on va raisonner en disant ça va être spéciste et ça va être encore de l'anthropomorphisme.
Oui, ça va être par rapport à
on va dire, bon, bah, vite, cherchons les criminels, ceux qui tuent les animaux, parce qu'un jour, ils pourront tuer les humains. Ce qui est important, c'est qu'on puisse tout simplement considérer que, on va les chercher parce qu'ils ont tué un animal. Donc, vous voyez.
À l'inverse, se dire ça aussi, c'est aussi l'idée de dire qu'on pourrait plus punir.
Oui, non, mais de toute façon, c'est important. S'il y a eu des études aux États-Unis, ils ont fait des études et tous les criminels, psychopathes, criminels en série ont tous, bien évidemment, massacré des animaux avant. C'est tous, pratiquement tous. Et voilà, donc. On les a même, voilà, on pourrait faire. Ce qu'on voudrait aussi, c'est qu'il y ait un fichier. De façon à ce qu'après ils puissent plus adopter d'animaux, qu'ils puissent. Voilà.
Et par rapport, alors rien à voir, mais par rapport à ce qui m'a séduit en chassant 4 ânes.
Oui, bah alors.
Par exemple, c'est
considéré
comme quoi?
Alors là, ça va dépendre. Mais alors, pour vous, ça va dépendre en fait parce que c'est le parquet qui décide des peines. C'est-à-dire qu'il va décider s'il poursuit devant le tribunal de police ou s'il poursuit devant le tribunal correctionnel. Donc s'ils considèrent que l'âne, logiquement, a été tué sur le coup, c'est pas un acte de cruauté, c'est le fait de tuer un animal. Et donc, oui, mais animal domestique ou pas, c'est le code pénal. Et vous avez les contraventions, le fait par maladresse, alors tout dépend, hein. Imprudence, et non, là, donc ça c'est les actes de maltraitance, mais voilà, le fait sans nécessité d'exercer volontairement des mauvais traitements vers un animal domestique. Voilà, donc là c'est une contravention. Pareil, le fait de tuer un animal, le fait sans nécessité, de publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal, eh bien c'est une contravention de 5e classe. Ça devient un délit s'il y a eu des actes de torture. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Alors là, donc c'est le parquet qui va décider de renvoyer. C'est pas la victime, c'est pas les associations, elles portent plainte. Et ensuite, c'est le parquet qui décide, comme pour les humains. Hein. C'est le parquet qui décide si on va mettre l'affaire devant le tribunal de police, si c'est une contravention, ou devant le tribunal correctionnel.
D'ailleurs,
Là, la propriété, mais les associations peuvent se constituer partie civile.
Mais au lieu de
ça, ah ben j'espère. J'espère, là, ça va être demandé. Mais si vous voulez, voilà.
Après le tribunal correctionnel, il y a une grosse part des juges. Ça dépend des juges après qui vont.
Oui, mais déjà, il faut arriver. Pour arriver devant le tribunal correctionnel, il faut considérer. Parce que voilà, là, si vous voulez, l'article du code. L'article pour les délits, voilà ce qu'il dit. C'est le fait d'exercer des sévices graves ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé. L'abandon d'un animal, c'est aussi un délit. Intéressant. Abandonner un animal, c'est un délit. Pas l'abandonner dans un refuge, hein, mais l'abandonner dans la rue, c'est un délit. Voilà. Donc, c'est vraiment... Le problème, c'est que ces sévices graves... vous avez beaucoup de parquets qui disent oui, bon, allez hop. Donc, pour être déjà arrivé devant le tribunal correctionnel, c'est bien. Comme on n'est pas arrivé devant le tribunal correctionnel pour l'affaire des poussins broyés, vous savez, L214 qui a porté plainte contre un couvoir de Bretagne. Mais on est arrivé devant le tribunal correctionnel, non pas pour maltraitance, mais parce qu'il y avait des manquements à la réglementation sanitaire, etc. Et oui. Mais bon, du coup, c'est le tribunal correctionnel qui a jugé. Les actes, mais pour l'instant aussi ils ont considéré quand même que c'était des actes de cruauté de mettre des poussins dans un sac poubelle vivant et de fermer les poussins mettent plusieurs heures pour mourir d'étouffement les uns sur les autres, alors que les broyer directement c'est pas un acte de cruauté parce que c'est légal et que c'est la méthode pour les tuer, voyez. Donc après
Et la contravention, c'est quel montant pour un délit ?
Le maximum, c'est 750. Alors après, vous avez des, en fonction, c'est pareil, ça peut toujours être doublé. Et puis les contraventions, vous avez 3e, 4e, 5e classe. Donc voilà, par exemple...
Un abandon, ça peut...
Un abandon, c'est un délit. Donc...
Non.
C'est un délit, l'abandon.
C'est pas un acte de cruauté ?
Non, l'abandon... Non, le délit, c'est acte de cruauté ou abandon. Mais l'acte de cruauté, c'est pas un abandon. Mais l'abandon est un délit à lui tout seul.
D'accord.
Abandonné, voilà.
C'est maximum 750.
Ah non, les délits, c'est 30 000, ça peut aller jusqu'à 30 000 euros d'amende.
Et 2 ans de prison.
Non. Alors moi, j'ai pas de jurisprudence à vous citer pour l'instant. Non, pour l'instant, on a... voilà. Pour les abandons. Non, il n'y a pas d'abandon. Il y en a eu, je ne sais pas combien, l'année dernière, je crois.
100 000.
Ouais.
Tout animaux confondus.
Et on reste toujours dans un cadre national.
Voilà, donc il est 18h, je crois qu'il y a une autre conférence.
On est toujours dans un cadre national.
Alors là, oui, là je suis pour la France. Hein.
Oui,
je vous parle de la...
Après, il n'y a pas de jurisprudence
internationale. Non. Non, parce que chaque pays, vous êtes jugé par votre pays quand vous commettez un acte de cruauté.
Vous voyez de la cruauté.